au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour, Mathieu?
Il t'en manque un, me semble.
Bonjour, 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 bonjour. Non, ça fait quatre. On est rendu à huit, là.
Exact.
Parce que c'est quatre fois mieux. J'espère que vous allez bien, tout le monde, aujourd'hui. C'est le 16 juillet 2025. Aujourd'hui, c'est le 197e jour de l'année. Ouh là là, qu'on s'approche de Noël! OK, j'arrête. Les gens vont finir par m'haïr. Mais beaucoup se plaignent qu'il fait chaud. Ben, je leur dis, ben faites pas de problème. Préparez-vous un pique-nique au mois de juillet, au mois de janvier. Vous allez comprendre que c'est... peut-être moins pire que ça quand il fait chaud. Juste pour vous dire que oui, la chaleur continue. Surtout dans le au Québec, en Ontario, province maritime aussi, on a des ressentis qui vont atteindre jusqu'à 40 aujourd'hui. Mais ne vous découragez pas, ça va tomber demain avec la pluie. On prévoit demain de gros orages, exactement aux mêmes endroits où il y a eu de la pluie le week-end dernier. Donc, ouais, on est averti. Et puis, bien, c'est plus agréable quand même à Terre-Neuve et Labrador. C'est beau et chaud dans l'ouest. Il y a quand même les feux de forêt là, au Manitoba. On leur souhaite de la pluie. Il n'y en a pas encore de prévu. Grosse émission aujourd'hui. On va parler de festival. On va parler de festival juste pour rire. Et on va recevoir aussi Fabienne Collin tout à l'heure pour parler du festival Haïti en folie. Et on va aussi recevoir notre très gentille et très belle Isabelle Falardeau. Salut Isabelle!
Bonjour!
Allô! Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Mais moi, je vais parler d'un endroit où il fait peut-être moins chaud qu'ici. En tout cas, on leur souhaite. Je vous parle de la Nation Cree d'Opaskwayak. Ça, c'est au Manitoba. Et d'une méthode agricole qui a été développée pour lutter contre l'insécurité alimentaire.
C'est un sujet important parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui trouvent... depuis la pandémie, je pense que c'est encore pire, qui trouvent le temps long.
Effectivement.
Oui. Ben, bon sujet. Alors, exceptionnellement, la chronique d'Isabelle va être après la pause de 10 heures parce qu'on va parler avec Fabienne Collin avant 10 heures pour des problèmes ou des ajustements d'horaire qu'on doit faire souvent cette émission. Moi, j'en profite pour vous parler un peu de ce 16 juillet. Alors, des dates historiques à se rappeler. Le début de l'Hégire, c'était en Arabie en 622. Ça, c'est le départ de Mahomet de la Mecque vers Médine, marquant le début du calendrier musulman. Cet événement est l'un des plus importants de l'histoire de l'islam. Aux États-Unis, 1945, East Trinity, c'est le premier test d'une bombe atomique. Alors ça, c'est le premier jalon d'un événement, en fait, sur l'ère nucléaire. Je ne sais pas si c'était si bon que ça, mais on a fait exploser une bombe. Ouais.
Deux bombes,
oui, tout à fait. Toujours aux États-Unis, en 1969, c'est le lancement de Apollo 11 par la NASA. Première mission à amener des humains sur la Lune. Cet événement historique aboutira avec l'alunissage le 20 juillet 1969. Ben ça, vous savez que je m'en rappelle. C'était à la télévision. J'étais tout jeune, mais je l'ai vu en noir et blanc. C'était pas très clair comme image, mais on a su que c'était ça. Sorti en 1988 de l'album Viva Hate de Morrissey, ancien chanteur des Smiths, cet album solo marque un tournant dans la carrière de Morrissey avec des titres emblématiques comme Sue the Head. Et puis, publication du roman L'Attrape-cœur de J.D. Salinger en France, roman qui est devenu un classique de la littérature moderne, c'est en 1952, explore des thèmes de l'adolescence et de la rébellion. Naissance célèbre, 1723, Joshua Reynolds, peintre britannique, l'un des portraitistes les plus célèbres de son temps. Il fut le fondateur de la Royal Academy of Arts à Londres. Et 1947, quelqu'un de très, 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 très connu.
Le Père Noël?
Un petit peu moins connu que ça.
Ah.
La reine Camilla Parker Bowles, hein, qui est la princesse de Cornouailles, l'épouse du roi Charles III. Alors, c'est son anniversaire aujourd'hui.
Ouais, j'étais un peu loin du compte.
Ouais. Quelques années de différence. 1967, Will Ferrell, acteur et humoriste des États-Unis, qui est connu pour ses rôles de comique dans Anchorman, et puis Elf, et puis Step Brothers. Et puis, ben voilà, je peux vous parler de Billie Holiday, qui est décédée en 1959, chanteuse de jazz. Et puis, 1999, mon Dieu, je me rappelle de ça aussi, John F. Kennedy Jr., qui est mort, hein, l'ancien fils de l'ancien président des États-Unis, qui meurt dans un accident d'avion avec sa conjointe Caroline et sa belle-sœur. Disparition tragique qui marque une nouvelle tragédie pour la famille Kennedy. Puis je pense que la plus récente tragédie, c'est celui qui s'est retrouvé secrétaire de la santé aux États-Unis. Bon, On a le droit de rire un petit peu ce matin. Isabelle, on te retrouve, donc après 10 heures?
Oui, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Et nous, on s'en va en musique. Bah, je m'pensais que la sonde a expiré. Et ça qui aime tout, y'aime, non, c'est moi qui la cause. Oh là, oh là. Moi, j'ai du mal à accepter que c'est ex-moi, yeah. Quelques semaines avant, c'était la vie en rose. Moi, fais ou mal et ou pas de mérité. Chaque jour, on crie et ticket ou en danger. Et tout ça pour yon limena, limena, limena. Senti moi high, m'en connais pas fumé. Moi senti moi sous, m'a moué éclairé. Kounia moi joué na karma. Même les ou pas prépondre, m'espérer ou attendre. Bébé ou c'est oxygène, moi. T'as préféré vivre l'un de l'eau. C'est là pour m'espérer ou encore.
Oswald et sa chanson Oxygène.
Oswald, qui est natif de Saint-Martin, mais qui est très fier de ses origines haïtiennes. Et puis, on va parler à quelqu'un qui est très fier de ses origines haïtiennes, c'est Fabienne Collat. Bonjour, Fabienne Collat.
Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien?
Très, très bien. Alors, on vous parle aujourd'hui parce qu'on vient d'entendre Oswald, mais c'est un des nombreux artistes invités de la 19e édition du festival Haïti en folie, qui commence le 23 juillet, là, du 23 au 27 juillet. Version hybride, version en ligne. Très intéressant tout ça. Mais Fabienne, on vous invite parce que vous avez créé ce festival, festival Haïti en folie, c'est bien ça?
Oui, absolument.
Et pourquoi vous avez créé ce festival?
Ah, moi, je suis arrivée à Montréal dans les débuts des années 2000 et puis je voyais rien qui pouvait rendre justice, en fait, à la belle culture haïtienne. Et j'avais découvert qu'il y avait beaucoup d'Haïtiens à Montréal, au Québec, qu'on était une grande diaspora. et puis qu'on était en train de devenir le premier groupe d'immigration, la plus grande communauté noire sur le territoire. Et je me suis dit, ben, pour mieux vivre ensemble, cette cohésion sociale qu'on aspire à avoir, ben, faut mieux se connaître, hein, pour mieux se comprendre. Et je me dis, quoi de mieux que de lancer un festival comme le Festival Haïti en Folie, qui serait d'abord musical, en plein air, avec plein de folie, mais surtout aussi qui fait goûter à la belle bouffe haïtienne, la bonne bouffe, la nourriture traditionnelle en passant, et puis la littérature, l'artisanat, le théâtre, la musique, le cinéma, en tout cas, peu importe, chaque année, ça varie un peu, mais la musique reste le pilier du festival. Alors, ça a commencé par une aspiration, par le goût aussi de montrer les talents qu'on a, qui sont de descendance haïtienne, que ce soit des artistes nés ici ou qui ont immigré. Donc ça venait de tout ça, pour montrer le meilleur de la culture et des arts, des talents haïtiens.
Bon, parlons justement du thème de cette année. Quand le compas rencontre la musique vaudou, le compas. j'ai une idée de ce que c'est, parce que j'ai quand même lu les communiqués de presse, mais je pense que je vais vous laisser le dire.
Mais en fait, la musique compas déjà, c'est la musique populaire commerciale haïtienne. C'est la grosse musique qui est partout, hein. Partout où on va, il y a du compas. Dans tous les festivals de la planète où il y a de la musique haïtienne, ça va être spontanément le compas qui est invité. Les artistes compas roulent partout. Et parallèlement, il y a aussi, évidemment, il y a la musique rap, il y a la musique hip-hop haïtienne, etc. Mais parallèlement, l'autre musique qui est plus traditionnelle, c'est la musique racine qu'on l'appelle, ou la musique vaudou, folklore, etc. Donc c'est la musique traditionnelle. Cette musique-là, c'est l'âme d'Haïti. C'est de là que tout a commencé. Et c'est la musique qui dérive vraiment des esclaves du temps, etc. Mais malheureusement, cette musique-là n'est pas partout. Alors nous, à Haïti en Folie, au Festival Haïti en Folie, ça a été depuis toujours notre obsession, notre préoccupation de faire rayonner la musique vaudou, la musique racine. Donc chaque année, on a vraiment des artistes qui chantent ces musiques-là. On a eu Paul Beaubreuil, on a eu beaucoup moins d'expérience, on a eu tellement d'artistes avec ce genre de musique-là. Mais cette année, les gens nous disent « Mais pourquoi tu n'as jamais de compas? Pourquoi il n'y a jamais de compas ?» Alors l'équipe a décidé cette année de clore le festival avec Oswald, qui est de la musique compas. La veille, on clôt le samedi soir, qui sera le 26, avec de la musique vaudou traditionnelle, avec Boucan Guinin et Di François, qui est un pilier de cette musique-là. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment deux thèmes qui se mélangent au festival pour la toute première fois. C'est assez historique d'avoir la musique vaudou et puis d'avoir aussi la musique compas en grande manchette comme ça.
Wow. Mais c'est pas juste ça. Il y a beaucoup d'autres activités. Je pense beaucoup de spectacles en plein air, évidemment. Mais il y a aussi beaucoup d'activités. Le défilé Rara, entre autres, le 26 juillet.
Oui, en fait, ça, j'adore. Ça, c'est mon activité préférée dans tous ces
films. Je savais pas.
Le défilé Rara, en fait, c'est une tradition un peu carnavalesque, mais il n'y a pas plein de costumes, des choses comme ça. C'est pas ça l'idée. C'est une tradition haïtienne où, pendant l'époque de Pâques, là, avant ça, ce qui mène jusqu'à Pâques, eh bien, chaque semaine, des petits, on appelle ça des bandes à pied, c'est des groupes musicaux qui ont des instruments de musique acoustique faits uniquement pour ça et qui vont se réunir dans un quartier. Chaque quartier, d'ailleurs, a son groupe Rara. Et ils vont se réunir dans un quartier. Ils vont commencer à jouer de la musique dans les rues, là. Et là, il y a quelques curieux qui s'amènent, quelques personnes viennent avec eux pour danser, pour s'amuser. Et là, ils commencent à marcher en dansant. Et là, d'autres personnes sortent de chez eux et commencent à les rejoindre de porte en porte, de quartier en quartier, de rue en rue. Mmh. Et à la fin, ça fait un parcours avec des milliers, mais des milliers de personnes, et toujours sous le son de cette musique-là, avec des instruments faits spécialement pour le défilé Rara. Donc, c'est cette tradition qu'on a voulu amener à Montréal, et ça fait quelques années qu'on le fait chaque année. Des gens viennent de partout pour assister à ce défilé-là, mais surtout beaucoup de gens qui ont soit adopté des enfants haïtiens ou des mamans qui ont eu des enfants nés ici, qui sont d'origine haïtienne, mais nés ici, qui disent « mais mes enfants n'auraient jamais eu la chance de voir ça ». Donc, c'est leur chance ultime de venir participer dans une vraie tradition haïtienne. Les mamans enceintes, les mamans avec des poussettes, la famille, tout le monde, c'est ouvert à tous. C'est la seule parade, en fait, où on ne fait pas que regarder, on rentre dedans et on marche et on danse. Et cette année, j'invite le public québécois, j'invite le public montréalais à venir en toute solidarité à cette parade qui sort du Parc des Compagnons, qui est au coin Mont-Royal et Cartier, et qui s'en va au Parc La Fontaine. C'est toujours au dernier samedi du mois de juillet.
D'accord. On a parlé tout à l'heure, parce que je pense que c'est une façon de se rassembler et de partager, manger. Je vois qu'il y a quand même une foire artisanale, il y a une foire alimentaire. Je pense qu'on va pouvoir, tout le monde, s'amuser. Là. C'est toujours le 26 juillet, je pense, à cette foire-là, où c'est ça, hein?
Oui, en fait, le festival est à plusieurs endroits, en effet, au quartier des spectacles, au jardin d'Agamelin, et aussi au Parc La Fontaine. Le Parc La Fontaine, c'est le quartier général, je dirais. Je pense que le festival est né dans l'arrondissement du Plateau qui nous réserve un accueil très chaleureux chaque année. Et c'est devenu une tradition pour les citoyens du Plateau qui accueillent le monde entier chez eux au Parc La Fontaine. Donc, ce sera la partie du Parc La Fontaine, c'est les 26-27. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est là que vous allez avoir la foire culinaire, la foire artisanale, la foire du livre. La foire culinaire, c'est la foire culinaire SAQ. Soit dit en passant, nos partenaires n'ont jamais tous les remerciements qui leur reviennent, mais le festival est présenté par la Banque TD, donc depuis le début, depuis très longtemps en fait. Donc on les remercie en passant. Donc la foire culinaire, j'aime bien que vous m'en parlez parce que c'est pas des tripes gastronomiques à outrance, là. C'est vraiment de la vraie bouffe de chez nous. C'est la vraie bouffe que vous allez manger si vous allez en Haïti ou si vous allez dans une famille haïtienne, en fait. C'est la bouffe vraiment traditionnelle, sans prétention, de la vraie bonne bouffe de la maman haïtienne, en fait. Et on a plein de casse-croûtes haïtiens qui vont être là pendant les 26 et 27, depuis du matin au soir, au Parc La Fontaine pendant la durée du festival.
Wow, ça va être le fun aussi. Il y a des conférences, des discussions aussi, je veux pas qu'on passe à côté. Vous avez invité beaucoup de monde pour parler de différents enjeux touchant les communautés haïtiennes.
C'est important que Haïti en folie pour nous. D'ailleurs, je rends hommage à la coordonnatrice générale qui est la programmatrice aussi, la coprogrammatrice de ce festival, c'est Asma Hadji. Mm-hmm. Asma, elle a toujours voulu que le festival ne reste pas que, entertainment, on va dire, là, que le côté fun, le côté divertissement, mais que ça soit aussi la possibilité de réfléchir, de discuter, de mettre en lumière nos bons coups, nos préoccupations aussi, et puis de trouver des solutions ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des panels de discussion. La beauté de ces panels, le jeudi 24 juillet, le festival est uniquement en ligne avec des discussions. On va avoir des discussions avec l'excellent Fabrice Ville, qui est maintenant auteur du livre « Bon garçon, compliment égaré, Timounicite ». Alors, c'est très long. En vagabondage, Timounicite en vagabondage chez les élites. Alors, c'est Fabrice, vraiment, qui va parler de son parcours, de ses expériences et puis de ses réalités, mais en même temps, avec en extrapolant ses identités haïtiennes et québécoises. Donc, j'ai très hâte à ce panel-là. Ça va se faire en ligne et c'est gratuit sur notre nos réseaux sociaux, surtout Facebook. On a aussi un panel sur regard féminin sur la cuisine haïtienne, identité, transmission et bien-être. Donc, c'est un panel où on va parler, évidemment, le nom le dit très, très bien, on va avoir Carla Beauvais, qui vient d'écrire un livre, d'ailleurs, qui met en valeur les chefs de la cuisine haïtienne. On a Rose Betty, on a Cynthia et Ellie, et ça va être animé par Marianne Lefebvre. Et enfin, on a aussi un panel sur, évidemment, l'insécurité en Haïti, insécurité et résistance au cœur du quotidien en Haïti. C'est devenu quelque chose qui retient l'attention. Le chaos qui sévit en Haïti, c'est sans commune mesure. Et on va en parler, on va essayer de comprendre le quotidien de tout le monde et qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est rendu avec tout ça.
Madame Collard, justement, vous m'ouvrez la porte à une question que je trouve délicate, mais qu'on doit se poser. Cette 19e édition se déroule dans un contexte, on vient de le dire, très difficile, avec tous les troubles qui secouent le pays. Et puis après ça, bien, il y a les renvois là, éventuels de ressortissants haïtiennes, ressortissants et ressortissantes d'Haïti, des États-Unis. Comment cela affecte le festival ou comment cela affecte les festivaliers d'après vous?
Moi, c'est bizarre à dire. Hein. À chaque année, à chaque mois de juillet, en fait, chaque été, il y a toujours quelque chose, un revirement de situation. C'est devenu un cliché.
Oui.
Et cette année, c'est je pense qu'on a atteint une apogée. Là, c'est un point de non-retour, non seulement avec la situation en Haïti, mais la situation dans la diaspora, comme vous venez très bien de le dire, avec des centaines de milliers d'Haïtiens qui vivaient paisiblement, qui avaient leurs papiers, qui étaient régularisés, il n'y avait pas de problème. Et là, tout à coup, on crée des illégaux en révoquant leur statut légal. Ça, quand même, c'est du jamais vu. Donc, avant même que le papier expirait pour être renouvelé, là, c'est incroyable, nos voisins du Sud. Donc, c'est difficile, c'est triste. Il y a des gens qui ne veulent même pas sortir de chez eux, vous savez, aux États-Unis, parce qu'ils ont peur que, à tout moment, ICE, qui est l'organisme, ouais, là, le bras du gouvernement qui est en train de faire les déportations massives, puisse les prendre et puis sous aucun prétexte, là, et puis les envoyer en Haïti. Alors, je dois dire que ça nous fait mal. À nous les organisateurs, ça fait mal à tous les enfants d'Haïti et même aux alliés d'Haïti, aux amis d'Haïti aussi qui trouvent ça très très dur. Et c'est pas plus facile ici parce que là, notre gouvernement à nous ici provincial a décrété qu'on allait mettre sur pause toutes les initiatives là qui permettaient à des résidents permanents ici ou des Canadiens ici de faire venir leur famille pour la réunification familiale. On met ça sur pause jusqu'en 2026. Alors ça, c'est un autre coup dur parce que parmi ces Canadiens et ces résidents permanents qui sont ici, qui ont encore leurs enfants dans leur pays d'origine, mais il y a aussi des gens en Haïti. Donc, on est touché par ça également. Moi, à ces gens-là, je dis, quelle que soit la culture, je dis, ben écoutez, allez en Ontario, allez ailleurs, parce que ailleurs c'est plus vite et vous pouvez avoir, vous pouvez faire l'application quand même. Et après, si vous voulez revenir vivre au Québec, vous viendrez, parce qu'une fois que vous êtes ici, vous pouvez vivre n'importe où,
oui,
au Canada. Donc, c'est très difficile et le festival Haïti-en-Foyer arrive comme un échappatoire, arrive comme cette plateforme, ce point de ralliement en fait, où toute la diaspora, tout le monde, surtout beaucoup de gens de la côte est des États-Unis, beaucoup de gens de partout dans le monde, et même de partout au Canada et du Québec, viennent ben, pour se ressourcer, pour rencontrer d'autres gens, pour oublier un peu tout ce mal-là. Et voilà.
Wow. Madame Collas, ça fait du bien de vous entendre. Je pense que les gens, les ressortissants haïtiens et leurs alliés, je pense, sont contents d'entendre ce message. Ça fait du bien. Et je rappelle aussi que la plupart des événements... En fait, je pense que tous les événements sont gratuits à ce festival la semaine prochaine.
Oui, cette année, bien, ça a toujours été le cas, sauf qu'on avait toujours deux, trois activités en salle payante. Mais cette année, c'est 100% entrée libre. Mais amenez beaucoup d'argent avec vous parce que vous allez acheter de la bonne bouffe. Vous allez aussi lire des auteurs haïtiens comme Daniel Laferrière, Jimmy Jean-Louis, Carla Beauvais, Fabrice Ville et tant d'autres. On a des auteurs qui sont aussi des auteurs émergents. On a une femme qui fait fureur qui s'appelle Michel Latortue qui sort des recueils de poésie qui va être là aussi en signature. Donc c'est Haïti-en-Folie, c'est tout ça. C'est aussi des artisans avec de l'artisanat, etc. Donc venez passer vraiment une semaine à voyager sans passeport dans un Haïti en plein cœur de Montréal où il n'y a que de la beauté en toute sécurité. Et sur haitienfolie.com, on a la programmation. Comme vous l'avez bien dit, c'est du 23 au 27 juillet. Moi, j'y serai en tout cas.
On va aller
et
vous
puis,
voir.
Oui, venez me dire bonjour.
Certainement.
Je suis très contente.
Fabienne Collas, c'est un plaisir d'avoir eu ce moment avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous jaser ce matin.
Merci à vous. Bye.
Merci. On va aller écouter maintenant Pèlerinage du chanteur Hérol Josué.
La paix son dème, tu sais moi-même, Racino. Sorti en bas de l'eau, volé dans l'aise. Couillot, moi, au premier, tourné la cime en haut. Je connais mon voyant, la terre va trembler.
Jou yo konen san se fi L'oraj va gonde Y pose mwen men Po rasimo Depi mi soti la gine Depi sonem Pose mwen men Rasimo Sorti en bas de l'œil, volé dans les airs. Je crois au plein moi, tourner la cime. Je reconnais dans moi, la terre coupée. Je reconnais ça, c'est vieux. L'orage va gronder, aussi moi-même, la cime. Sorti en bas de l'œil, volé dans les airs. Je crois pas moi, je me lastime. Je connais nos voyants, ma vie va tomber.
J'aime pas beaucoup faire ça, mais on a dépassé un peu nos temps, puis je dois quand même vous indiquer qu'on s'en va à la fin de cette première partie de l'émission. En deuxième partie, nous allons avoir donc Isabelle Falardeau et on va parler d'insécurité alimentaire. Donc, ce que vous entendez présentement, c'est de la musique vaudou qu'on dit en Haïti. Et la première chanson qu'on a jouée ce matin, c'était du compas. Alors, on a vraiment fait le tour des deux styles de musique qui seront présentés lors du festival Haïti en folie. Je vais vous parler un petit peu de météo. Il va faire encore chaud aujourd'hui au Canada, dans l'est du pays, notamment en Ontario et au Québec, dans les provinces maritimes. Et attendez-vous à des ressentis jusqu'à 40 dans la région ici à Montréal. Ailleurs, ça reste chaud, mais un petit peu moins intolérable. Et Isabelle Falardeau nous parle d'insécurité alimentaire dans la prochaine demi-heure. Et nous allons parler du festival Juste pour rire à 10h30. À tout à l'heure.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
On le cherche partout dans la ville, le pauvre la cervelle en travaux. Wazy. Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid.
Je me suis perdu dans le ciel.
Je me suis perdu dans le ciel.
Je pensais pour ne plus jamais redescendre. Je sais si la vie est belle.
Je sais si la vie est belle.
On me cherche dans le S, on me cherche dans le wesh. Sorry si j'étais pas rejoignable, j'étais parti dans le ciel. Mon gars, tu peux me reach là où le 3G. Trouve la mélancolie dans le 3G. Kamehameha sur tous mes ennemis. Flou coupé katana, c'est pas des ananas, c'est une tranche de vie. J'te garantis, rien n'est garanti. C'est pour ça que je vis ma vie au ralenti. You can roll but I fly. She get low when I'm high. I'ma do what I want. Did it big till I die. Nobody can stop me, no. On the road comme un trottin. Pensez pas que c'est easy. Fallait work, man.
Yeah, vas-y. On le cherche partout dans la ville pour les oreilles d'un travaux. Vas-y. Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid. Je suis perdu dans le ciel.
Je suis perdu dans le ciel.
Je suis passé pas non plus. Je ne veux pas redescendre. Je sais si la vue est belle.
Je sais si la vue est belle.
Ooh. All the real ones, yeah, I count them on a hand. Everybody else, well, it's goodbye. I know what they say, baby, I know how it is. Now I'm doing my thing, it feels right. It seems unreal. Used to look for something, was scared of what was coming. Nothing to fear. Mais non, le ciel, c'est clair, on va se perdre.
Je me suis perdu dans le ciel. Je me suis perdu dans le ciel. Je pensais pour ne plus jamais redescendre. Je sais si la vie est belle. Je sais si la vie est belle.
La chanson Ciel de Fouki, on entendait aussi Alicia Moffett.
Et là, on va entendre Isabelle Falardeau. Salut Isabelle!
Salut!
Mais écoute, on t'a déplacé un petit peu plus tard parce qu'on voulait avoir cette entrevue avec Mme Colla. Et puis, ben, ça donne un bon effet. Elle a autant d'énergie que toi. Alors, ça part bien l'émission.
Je suis tout à fait d'accord, ça valait la peine. Je suis allée l'écouter pendant que, justement, pendant que j'attendais de vous reparler.
Oui, oui. Puis surtout qu'elle vend très bien.
C'est intéressant.
Oui, puis elle vend très bien ce festival. Puis ce que j'aime de Fabienne Colla, je le dis, c'est quand même une grande personnalité de la communauté haïtienne. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas une question à laquelle elle ne répondra pas. On est quand même allé dans ce qui est très difficile pour les communautés haïtiennes et les ressortissants et la diaspora, là, ce qui se passe présentement dans leur pays, aux États-Unis, même ici au Québec. C'est vraiment pas facile. Et de ne pas reculer devant une question comme ça, puis d'y répondre, puis de mettre la perspective, je trouve que ça fait du bien. C'est une, vraiment... moi, je suis très content qu'elle ait accepté de nous parler aujourd'hui, considérant que c'est une femme d'affaires très occupée. C'était le fun de l'avoir ce matin à l'émission. Alors, nous, on va parler d'insécurité alimentaire.
Ben oui, alors, c'est vraiment complètement différent comme sujet, quoique, malheureusement, en Haïti, avec ce qui se passe, il y a probablement beaucoup de cette insécurité alimentaire. Mais nous, on parle vraiment de nos voisins du Nord, en fait. Si on est au Québec, on parle de nos voisins du Nord-Ouest, puisque c'est le nord du Manitoba. Donc, c'est la méthode agricole Smart VF. Et là, c'est pas VF pour version française, bien que j'ai pris cet article-là dans La Liberté, qui est le journal des francophones du Manitoba, ou un journal des francophones du Manitoba. Mm-hmm. Mais c'est on parle d'une méthode pour donc cultiver dans des serres, peut-être que je vais vous le dire un petit peu plus long. Donc, c'est Smart Modular Agricultural Raised Technology Vertical Farming. Donc, le VF, c'est pour Vertical Farming, la culture verticale. Donc, c'est une méthode de culture intérieure verticale contrôlée par ordinateur. Et donc, ça permet justement là, de contrer les différents climats qui sont inégaux de mois en mois et toute l'année on peut cultiver des légumes et des en fait c'est surtout des légumes et des de la verdure là dont on parle évidemment. Alors cette méthode-là plus spécifiquement, moi j'en ai déjà parlé ici là à l'émission là, de méthode ou de projet de culture verticale à l'intérieur. Mais celui-là, plus spécifiquement, a été développé en collaboration avec l'autorité sanitaire de la Nation Cree d'Opaskwayak et un groupe de chercheurs de l'Université du Manitoba. Donc, si jamais vous vous posez la question, c'est où ça, la Nation Cree d'Opaskwayak, parce que moi-même, je ne savais pas si c'était où. Donc, c'est bien sûr au Manitoba. Si jamais vous avez déjà entendu parler de Flin Flon,
ouais.
Que vous trouvez ça rigolo. Moi, je me rappelle de ce nom-là parce que c'est un nom de ville rigolo. Donc, c'est un petit peu au sud de Flin Flon. Mais... ça va peut-être vous donner un peu plus d'informations si je vous dis que c'est 600 km au nord de Winnipeg. Donc, c'est, on pourrait dire dans le nord, mais en fait, c'est sûr que si on regarde la carte, c'est dans le milieu du Manitoba. Tout comme moi, quand j'habitais en Abitibi, je disais que j'habitais dans le nord du Québec, mais quand on regarde la carte, c'est dans le sud du Québec.
C'est toujours relatif. On est toujours le sud de quelqu'un ou le nord de quelqu'un, autant qu'on ne perde pas le nord.
Mais tu sais, c'est le nord de la partie habitée, on va dire. Ouais. Et donc, c'est ça, c'est une collaboration pour vraiment, c'est ça, répondre à cet enjeu qui est vraiment un enjeu de longue date dans les communautés nordiques, la sécurité alimentaire. Parce que dans le nord canadien, vous devez vous en douter, l'accès à des aliments frais, nutritifs et surtout abordables, ça demeure un défi majeur. Évidemment, il y a en cause l'éloignement géographique, la dépendance aux chaînes d'approvisionnement routières qui est liée à l'éloignement géographique et aussi les coûts de transport élevés qui sont aussi liés à ce même enjeu. Et tout ça, ben, ça affecte la qualité et le prix des denrées acheminées. Donc, c'est pas juste le prix, c'est aussi la qualité parce qu'après avoir fait tout ce chemin-là, ben, c'est pas toujours de première fraîcheur. Pour les chercheurs engagés dans cette démarche, donc on parle entre autres de la docteure Miu Su, qui est professeure au département des sciences de l'alimentation et de la nutrition humaine à l'Université du Manitoba. L'objectif était double. C'était d'abord d'améliorer l'accès local aux aliments sains et aussi de contribuer à la santé globale des communautés. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Si on ne peut pas avoir accès à des aliments sains, ben, on a des bonnes chances de nuire à notre propre santé. C'était d'autant plus pressant en ce moment parce que avec les hausses tarifaires, les feux de forêt aussi hein, qui perturbent beaucoup les chaînes logistiques, ça c'est à chaque année, mais cette année déjà on a pu le voir, ben c'est vraiment particulièrement difficile. Et selon l'autorité sanitaire d'Opaskwayak, les taux de diabète et d'hypertension ils sont particulièrement élevés, on parle de 40 % des adultes. Donc, on voit vraiment là à quel point c'est un enjeu important, une bonne alimentation. Il y a plusieurs facteurs structurels qui entrent en jeu. Il y a l'accès limité, là on parle des taux de diabète et d'hypertension, l'accès limité aux soins de santé, les conditions de vie qui découlent de l'isolement géographique, les impacts persistants du colonialisme, hein, notamment la perte d'accès aux pratiques alimentaires traditionnelles que ce colonialisme-là a causé. Puis aussi les traumatismes intergénérationnels, hein, les fameux pensionnats autochtones, les parents qui ont légué des problèmes à leurs enfants. Donc, il y a vraiment plein d'enjeux. C'est une triste réalité. C'est souvent plus facile et moins coûteux d'acheter des boissons sucrées ou des collations transformées que des fruits et légumes frais. Et ça, ben, c'est là-dessus là, qu'on a décidé de se concentrer dans ce projet-là. Donc, la technologie SmartVF propose une méthode de culture intérieure verticale, je le disais tantôt, contrôlée par ordinateur, et ça permet de produire localement des légumes à haute valeur nutritive, et ce, toute l'année. Parce que grâce à un éclairage et à une température régulée, le système réduit la dépendance aux importations alimentaires, tout en offrant aux communautés une forme de souveraineté alimentaire adaptée à leur réalité. On dit aussi que les équipes de recherche peuvent ajuster la composition des nutriments pour produire des légumes dits fonctionnels, c'est-à-dire qui sont spécialement conçus pour soutenir la prévention de maladies chroniques. Donc, on peut vraiment viser des aliments riches en nutriments qui vont amener une solution aux problèmes spécifiques de santé des communautés. Mmh. On nous dit, la docteure Soudi, nos données préliminaires suggèrent que ces aliments pourraient améliorer la santé cardiovasculaire et contribuer à la réduction de l'hypertension et de la masse graisseuse. Bien sûr, il reste du chemin à parcourir, mais les premiers résultats sont encourageants.
Bien, des fruits et des légumes frais, hein, c'est quand même essentiel là, à l'alimentation et pour garder pour préserver sa santé.
Voilà, alors... et c'est ça, comme on disait plus haut, c'est souvent ça qui coûte le plus cher. Hein. Ça revient moins cher d'acheter des cochonneries, il faut le dire comme ça. et ce projet-là a pris forme à l'initiative de Glenn Ross, qui est directeur général de l'Opaskwayak Health Authority, donc le département sanitaire d'Opaskwayak, parce qu'il est convaincu que la santé alimentaire constitue une clé essentielle pour le mieux-être collectif. Parallèlement à ça, la docteure soumenait d'autres recherches dans la communauté. Elle est formée comme diététiste clinique en gastro-entérologie, en diabète et en maladies cardiovasculaires. Et elle est aussi chercheuse principale au Centre canadien de recherche agroalimentaire en santé et médecine et au Centre de recherche Albrechtsen de l'hôpital Saint-Boniface. Et ses travaux à la Dr. Sou ont été reconnus à l'échelle internationale, notamment en 2017, quand elle est devenue la première femme nommée scientifique de l'année par la Fédération coréenne des sociétés scientifiques et technologiques. Donc, elle est reconnue pas juste ici, mais à travers le monde, à la Dr. Sou. Et l'équipe de Pascoyac l'a donc invitée à contribuer au projet Smart VS, qu'elle a rejoint officiellement en 2019 après l'obtention de financement et l'élaboration du cadre de recherche. Donc, elle n'est pas l'initiatrice, mais on l'a invitée à y participer et elle est devenue vraiment un atout central dans le projet. Évidemment, comme dans tout projet d'innovation, on a dû faire des ajustements. Il y a certaines personnes de la communauté, notamment des aînés, qui ont exprimé au départ des réserves à l'égard d'une culture hors sol, donc une culture sans lien direct avec la terre. Et la Dr. Sou explique qu'elle a compris que pour plusieurs, la terre et ce qu'elle produit sont profondément sacrés. Alors, l'idée d'utiliser une solution nutritive à base d'eau pouvait sembler artificielle ou même en rupture avec leurs valeurs. Mais avec le temps, et surtout, on souligne après avoir goûté au produit, l'adhésion s'est accrue et on a constaté, les membres de la communauté ont pu constater la fraîcheur, la qualité des aliments et peu à peu, leur perception a évolué. On rappelle que ce qui est souhaité, c'est d'avancer en respectant les réalités culturelles dans un esprit donc de co-construction et de collaboration. Et donc, un peu en lien avec ça, outre les bénéfices alimentaires et de santé, Smart VF ouvre la voie à de nouvelles possibilités de formation et d'emploi parce que, comme c'est local, c'est des personnes localement qui peuvent travailler là-dessus. À certains moments, des crédits ont même été accordés à des élèves secondaires qui participaient aux activités du site. Donc, des crédits, non pas des crédits financiers, mais des crédits scolaires donc pour leur bulletin. Et donc, ces activités-là leur permettaient de se familiariser avec des technologies agricoles innovantes. L'équipe travaille par ailleurs à l'optimisation du système en partenariat avec des ingénieurs de l'Université du Manitoba. L'intégration de l'intelligence artificielle ou de la robotique est à l'étude pour voir si on pourrait améliorer la productivité et réduire les tâches répétitives. À terme, on dit que le modèle pourrait être étendu à d'autres communautés qui souhaitent renforcer leur autonomie alimentaire. C'est pas mentionné, puis j'ai pas réussi à trouver l'information. J'aurais aimé ça savoir en termes de chiffres là, à quel point ça a réduit. Donc, combien de personnes on peut nourrir avec ça? Mais ça semble quand même d'une grande ampleur, et surtout si on peut l'étendre à d'autres communautés, ça veut dire qu'on doit pouvoir avoir répondu aux besoins de cette communauté-là. La Dr. Sou conclut en disant « Nous souhaitons soutenir les initiatives portées par les communautés nordiques elles-mêmes en leur offrant des outils pour produire localement, selon leurs priorités et leurs aspirations. »
C'est vraiment leurs besoins, oui. Ouais. C'est un beau projet, tu disais, oui?
Ben c'est ça, c'est un beau projet qui répond à un besoin criant puis qui peut effectivement facilement être étendu là, parce que c'est quelque chose qui peut être construit un peu n'importe où, en fait.
Là, c'est une version adaptée aux besoins de communautés des premiers peuples et qui vivent dans des secteurs nordiques. Mais tu sais qu'il y a quand même ici, même à Montréal, il y a des fermes qui s'installent sur les toitures des grands entrepôts, des usines, récupèrent la chaleur. Et certains y voient éventuellement une certaine souveraineté alimentaire par rapport à un certain voisin du Sud. Tu sais, je ne sais pas si on va un jour cultiver des oranges et des pamplemousses en serre, mais sait-on jamais. Hein? On ne peut pas arrêter la science, comme dirait les gens.
Effectivement. Puis la technologie est là aussi bien l'utiliser pour notre propre profit.
Oui, tout à fait. Isabelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Avec plaisir.
À la prochaine.
À bientôt.
J'ai pris l'avion pour Winnipeg. J'ai survolé l'Ontario. Tu joues, je l'ai vu. l'avion descend comme une saison dans un champ de cerises et tu souris comme une chanson cachée dans mes valises. On a soudain le pied pesant dans l'été gris du Canada.
Félix Diotte et sa chanson Winnipeg.
Oui, il parlait du ciel de Winnipeg. Je ne sais pas s'il voit le ciel à Winnipeg ces jours-ci avec la fumée. Soit dit en passant, hein, les avis d'air, de mauvaise qualité d'air, sont en train d'être levés là, dans l'est du pays. Mais il faut dire que c'était difficile hier avec toute cette fumée. Et pour les gens qui, comme moi, souffrent d'allergies, là, c'est ouf, c'est pas évident de se promener quand il y a des trucs comme ça dans le ciel. J'avais les yeux rouges hier en fin de journée. Par actualité maintenant, en Jeep dans une mine à ciel ouvert, c'est par Claude Plante, publié le 15 juillet sur fm1077.ca. Une randonnée en Jeep dans une mine à ciel ouvert, c'est ce qui est proposé comme activité pour recueillir des fonds pour l'association de la sclérose en plaques de l'Estrie. L'événement Gagne ton ciel, ça se tient ce samedi dans l'ancienne mine Jeffrey à Val-des-Sources. Selon Samuel Robidoux, directeur adjoint de l'association, les fonds récoltés soutiendront des activités de l'organisme et la recherche sur la sclérose en plaques. C'est une activité en progression qui est maintenant reconnue comme une activité officielle de la ville de Val-des-Sources. C'est une randonnée en Jeep. On a plusieurs chauffeurs de Jeep, on en a 15 qui vont être présents et qui font vivre une randonnée dans la mine. C'est une randonnée d'environ une heure, dit-il. Les participants ont une chance unique car il s'agit d'une seule fois dans l'année où l'ancienne mine d'amiante est ainsi accessible. Notre M. Robidoux, invité donc au micro du 107.7 Estrie. À quoi ressemble l'expérience, Gagne ton ciel? Bien, samedi, donc, embarqué à bord d'un Jeep avec chauffeur, évidemment, pour une randonnée unique autour de l'impressionnant puits minier à ciel ouvert de Val-des-Sources. Et laissez-vous émerveiller par des paysages à couper le souffle. Pour les gourmands, prolongez l'expérience avec une dégustation savoureuse en collaboration avec la Jambonnière, la microbrasserie Moulin 7 et la miellerie King Distillerie et Hydromiellerie. Sans oublier les breuvages non alcoolisés fournis par la coop Métro. Tous les profits générés par la vente des billets seront remis à l'Association de la sclérose en plaques de l'Estrie. Arthabasca, Tristan Martel représentera Climat Québec. Martine Ouellette, chef de Climat Québec, a annoncé que Tristan Martel sera de nouveau candidat pour Climat Québec dans la partielle de Arthabasca. Tristan Martel, c'est un jeune homme dynamique, impliqué dans sa collectivité. Il a son Québec à cœur, vivant dans une résidence intermédiaire, atteint de paralysie cérébrale. Il représente une partie de la population souvent négligée et discriminée. Les problèmes de santé, il les vit de l'intérieur. Malgré sa contrainte d'être en fauteuil motorisé, il se lève pour défendre les droits de la population. Tristan est un militant convaincu et bien implanté dans son milieu. Il a le courage, l'intelligence, la détermination dont nous avons besoin. Il représente un atout de taille pour nous. En posant sa candidature pour Climat Québec, Tristan donne aux citoyennes et citoyens de Victoriaville une véritable occasion de transformer le paysage politique avec un député doté de la force de conviction nécessaire pour défendre la population face au système et à ceux qui en abusent, a déclaré Martine Ouellette. Qu'Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec et le Parti québécois sombrent dans une campagne de désinformation sur la taxe carbone par pur opportunisme électoral et profondément démagogique, selon Martine Ouellette. Climat Québec reviendra sur cet enjeu crucial pour l'avenir des citoyennes et des citoyens du Québec. La parcelle d'Arthabasca pour Martine Ouellette est le moment d'envoyer un message que les choses peuvent changer. En élisant Tristan Martel avec Climat Québec, les citoyens d'Arthabasca enverraient un signal fort qu'il est temps que l'État se mette au service des citoyens et non pas des affairistes qui siphonnent les fonds publics depuis trop longtemps, menaçant directement la qualité des services publics, que ce soit la santé, l'éducation et les autres, a-t-elle dit. Le Québec et Arthabasca n'ont pas besoin d'un autre député dans le mouvance des affairistes. Ils ont besoin de quelqu'un de compréhensif et ferme qui voit ne pas laisser glisser le Québec au plus croche. Il est temps d'avoir une voix supplémentaire avec un nouveau parti comme Climat Québec à l'Assemblée nationale qui osera déranger et déranger les combines bien établies pour recentrer l'action sur le bien commun, a ajouté Tristan Martel. Climat Québec, donc, c'est un parti politique indépendantiste dédié à la justice climatique qui propose que l'État de la République du Québec prenne toutes les décisions à travers le prisme du climat dans une perspective d'équité sociale et économique. Puis un médecin allemand face au juge pour le meurtre de 15 patients. Un écran paru le 13 juillet sur le site du journal de Montréal.com. Un médecin spécialisé dans les soins palliatifs à domicile est jugé à partir depuis lundi, à Berlin pour le meurtre de 15 patients, les enquêteurs soupçonnant un nombre encore plus élevé. Après, âgé de 40 ans, Johannes M., marié et père d'un enfant, pourrait même être le plus grand tueur en série des dernières décennies dans l'Allemagne de l'après-guerre, relèvent les journaux. 96 autres décès suspects, dont celui de sa belle-mère, font actuellement l'objet d'une enquête, a dit à l'AFP un porte-parole du parquet. Atteinte d'un cancer, la mère de son épouse est morte le week-end où le couple lui avait rendu visite en Pologne début 2024. Pour le moment, le docteur mort, comme l'a surnommé l'hebdomadaire Die Zeit, et je veux dire le Times ou le Temps, est officiellement poursuivi pour avoir tué 12 femmes et 3 hommes à Berlin entre 2021 et 2024. Il aurait administré à ses patients âgés de 25 à 94 ans, sans indication médicale ni consentement, un sédatif suivi d'un relaxant musculaire. Cette association entraîne une paralysie, des muscles respiratoires, puis un arrêt respiratoire et la mort en quelques minutes selon le parquet. Dans au moins 5 cas, il est soupçonné d'avoir mis le feu au domicile de ses victimes pour masquer ses crimes. Elle résidait en majorité dans des quartiers populaires du sud et sud-est de la capitale allemande. D'après plusieurs médias allemands, Johannes M. a étudié scientifiquement les homicides dans le cadre de sa thèse de doctorat en médecine, achevée en février 2013, quand il avait 28 ans. Pourquoi les gens tuent, ainsi commençait son mémoire, dans lequel il se penchait notamment sur les homicides non détectés, les homicides de patients. C'est fin juillet 2024 que sa chef a sonné l'alarme auprès de la police au sein de ce service de soins à domicile berlinois. Elle trouvait étrange que tant de patients de Johannes M. meurent si soudainement et que tant d'appartements brûlent au moment des décès. Le médecin est interpellé début août 2024 à son retour de vacances, au départ pour le meurtre de 4 patientes, mais la liste des victimes présumées s'allonge et passe à 8 en novembre, 10 en février, puis 15 en avril. Lors de son arrestation, il est soupçonné d'avoir tué 2 patients le même jour, le matin du 8 juillet, un homme de 75 ans dans son logement, et puis quelques heures plus tard, une femme de 76 ans dans l'arrondissement voisin, où il met le feu à son appartement. Wow, des choses à suivre. Ouais. Comme disait Mathieu, ça, disons que ça rappelle des drôles de choses. Un Allemand qui se rend en Pologne pour tuer du monde, si tel est le cas. Ça, donc ça rappelle des choses pas très drôles, en fait. Après la pause, on va parler du festival Juste pour rire. Tiens, on va parler de quelque chose de drôle, ça va nous faire du bien. On va parler du festival Juste pour rire, qui revient donc à compter d'aujourd'hui pour les 10 prochains jours. Et je vous rappelle qu'il fait chaud. Il fait chaud, ça n'a rien de se plaindre, c'est comme ça. Encore aujourd'hui jusqu'à demain matin, surtout pour l'Ontario et le Québec. Mais ça reste chaud aussi, peut-être moins humide, mais quand même chaud en Atlantique. Et c'est beau et chaud dans le reste de l'ouest du pays. Malheureusement, rien pour cesser les feux de forêt au Manitoba. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Penses-tu que c'est comme ça que tu vas m'avoir à soir? Tu peux bien passer la nuit sur mon trottoir, mais tu viendras pas dormir dans mon dortoir. Tu peux bien chanter puis gratter ta guitare. Moi ça me dérange pas, je me couche toujours bien tard. Tu peux bien attraper rhume sur mon trottoir, mais tu viendras pas te moucher dans mon mouchoir. Essaye d'entrer voir à qui t'as affaire. Tu vas te faire sortir la tête la première. Tu peux garder tes fleurs pis tes bonbonnières. Ça me fera pas penser à toi dans mes prières. Depuis le temps que je refuse de te satisfaire. Tu peux bien grimper après les lampadaires. Tu peux bien te frapper la tête sur mon trottoir. Mais tu viendras pas bouder dans mon boudoir. Tu commences à me tomber pas mal sur les nerfs. Tu ferais mieux de surveiller ton vocabulaire. Tu vas finir par me mettre en bourgeois le vert. Oublie pas que je couche avec mon revolver. Si tu t'essayais par la porte d'en arrière, ça ferait peut-être un peu moins José les commères. Tu peux bien fumer ta pipe sur mon trottoir. Mais tu viendras pas cracher dans mon crachoir. Depuis tant que je te dis que je veux rien savoir. Je vois pas comment tu me ferais partir pour la gloire. Faudrait que je ferme les yeux ou bien qu'il fasse bien noir. T'es-tu déjà regardé dans un miroir? Moi je te dis que si j'avais l'air de ce que t'as, je m'en irais passer ma vie dans le désert. Tu peux bien aller dormir sur un banc vert. Les chameaux s'accouchent dehors même en hiver. Tu peux bien prendre ton violon pour une guitare. Ou du moment que tu ne prendras pas pour une poire. Tu désespères. Rappelle-toi peut-être que si tu persévères, tu finiras peut-être par m'avoir à soir. Si c'est pas demain soir, ça sera peut-être demain soir. Si c'est pas demain soir, ça sera peut-être un autre soir.
Diane Dufresne et son Reel pour rire.
Oui, puis c'est le temps de rire parce que ça commence aujourd'hui, Juste pour rire. Ça commence donc et ça va durer jusqu'au 27 juillet à la Place des Festivals de Montréal. Dans la foulée d'une relance marquante et d'un engagement confirmé, on nous dit que plus de 100 000 billets ont déjà été vendus. Ça date quand même de quelques semaines, parce que c'est un communiqué de presse de quelques semaines, en fait. Et donc, des billets vendus pour la programmation en salle. Volet extérieur qui promet lui aussi de faire vibrer la ville. Alors, des bonnes nouvelles, alors que les festivals, on le sait, n'ont pas eu facile depuis la pandémie et puis maintenant avec le manque de financement et tout. Et pour parler de tout ça, on reçoit Josée Charland, qui est directrice de la programmation du festival Juste pour rire. Bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup.
Vous devez être fébrile aujourd'hui, hein?
Absolument, très fébrile que ça débute enfin.
Oui, ben, il semble que c'est bon pour la santé de rire. Alors, on va être en forme cette année?
On va être en forme cette année et on va vivre vieux longtemps.
Mais en tout cas, nous, on rit beaucoup à cette émission, ça fait que ça nous fait du bien de rigoler. Parlons de cette... Juste pour rire, c'est quand même important. Là. C'est un gros festival à Montréal, grosse programmation extérieure. Et parlons-en un peu de cette programmation extérieure qui est gratuite. C'est tous les soirs, hein, à partir de 19h, à la place des spectacles. Scène, l'Auto-Québec, je pense qu'on l'appelle.
Exactement, c'est la scène d'Auto-Québec qui est située à la place des festivals. C'est pas tous les soirs ou presque, là, j'invite les gens à aller consulter notre site web. Officiellement, le festival débute ce soir, mais ce soir, on est en salle majoritairement. Le premier spectacle extérieur aura lieu demain, ainsi que vendredi et samedi, et reprendra le week-end prochain dès mercredi pour se terminer samedi. Donc, évidemment, un heureux mélange de tout, des spectacles de variété, d'humour, très, très haut en couleur, des univers très variés, des spectacles francophones, des spectacles anglophones et une soirée bilingue également.
J'aimerais parler du spectacle du 17 juillet, Céline en humour et en paillettes. Ça, ça a l'air vraiment cool.
Effectivement, animé par Mathieu Dufour avec une mise en scène de Joël Legendre. Écoutez, ça va être un spectacle, mon Dieu, spectaculaire, si je peux, si je peux m'exprimer ainsi. On rend hommage à Céline, bien évidemment, mais à notre façon. Donc, il y aura des numéros d'humour, il y aura des odes à Céline, il y aura des personnifications, il y aura des belles surprises aussi. Donc, honnêtement, ça va bouger sur la place des festivals, ça c'est sûr.
Oui, puis j'ai vu que Le Philippe, hein, c'est, je pense que c'est la drag queen qui a gagné la saison 3 de Drag Race qui est invitée.
Exactement, que j'ai rencontré hier. Il est très fébrile. Ça va être une première expérience pour lui comme ça en scène extérieure. Première expérience aussi en sol québécois, montréalais. Mm-hmm. Il est par ailleurs ce soir au cabaret chez Mado pour le spectacle Reine de France qu'on présente dans le off. Mais sinon, demain soir, il va être très flamboyant sur la scène extérieure.
Ouais, j'ai rencontré moi récemment lors d'un séjour à Paris le premier gagnant, Paloma, là, de cette Drag Race. Mm-hmm. Oh, ils ont beaucoup d'humour, dans, ben, comme chez nous aussi, on doit dire. J'ai retenu des choses, hein, je disais la programmation, puis s'il y a des choses que j'oublie, vous me le dites, mais j'ai retenu le gros show. Ça m'a intrigué.
le gros party de samedi soir qui est animé par Dave Godet.
Oui.
Oui, en fait, le titre le dit, hein, c'est un gros party, donc ça va être notre party fluo aussi qu'on appelle. Donc, on va revisiter un peu les années 80, 90, années 2000. Donc, la trame de ce spectacle-là qui est tout en humour et en musique, ben, c'est vraiment un voyage à travers le temps et les clubs ou les discothèques qu'on a fréquentés. Alors, on va se plonger un peu dans la nostalgie avec ces établissements mythiques du Québec-là. Et il y a beaucoup d'invités, bien évidemment, qui vont venir faire des numéros d'humour. On veut que la place des festivals soit complètement fluo. Il va y avoir des confettis, il va y avoir de la pyrotechnie. On va remettre à toute personne qui va se présenter des petits colliers, des petits bracelets fluo. Donc, ça va être. J'ai hâte de voir. J'ai comme l'impression que ça va créer des belles images.
Ben oui, justement. Une grosse programmation, ce qu'on appelle en extérieur, c'est gratuit, puis il y a même la place aussi, si je me rappelle bien, il y a plein de petits événements dans la journée, très familial et tout ça. Donc, on est encore capable de faire des spectacles gratuits, c'est pas évident là, avec le financement ces jours-ci.
C'est pas évident, effectivement. On remercie par ailleurs là, tous nos partenaires financiers, mais il faut être très créatif, effectivement. Il faut aussi que les artistes aient envie de participer. Bien évidemment, on fait vraiment des miracles. Honnêtement, là, nos équipes de création, nos équipes de production font vraiment des petits miracles. Mais je pense que les artistes avaient envie aussi de cette relance-là. Ils avaient hâte de retrouver le public montréalais, de jouer en extérieur, d'être présent. Donc, tout le monde répond oui, lève la main, et puis ben, ça donne le résultat là, qu'on va pouvoir observer.
Et il y a des spectacles en salle, ce n'est pas gratuit, mais c'est quand même abordable. Hein? Quels sont les spectacles à retenir? Je sais qu'il y en a plusieurs, puis c'est toujours un peu crève-cœur de demander à la directrice des programmes de la programmation de nous dire des choses à retenir. Puis on ne peut pas toutes les nommer, mais d'après vous, là, qu'est-ce qui retient l'attention?
Ben, écoutez, nous, on est très fiers, bien évidemment, de notre série Décennies qui va être présentée à la Place des Arts. Donc, on a regroupé par grande famille des humoristes ici des années 80-90, 2000-2010-2020. Alors, ça, je pense que c'est 90 humoristes qui ont décidé, et qui ont accepté notre invitation à participer à cette série-là. Donc ça, j'invite les gens vraiment à aller voir ça. Dans un tout autre registre aussi, j'ai aussi écrit un livre, donc un volet peut-être un peu plus intellectuel. On s'adresse à des humoristes qui ont aussi écrit un livre. Alors, c'est des rencontres entre deux humoristes qui ont écrit sur un même sujet et pour discuter entre eux notamment. Et il y aura possibilité de rencontre avec le public et de répondre à des questions. Dans les découvertes, le kiff de ours, donc 4 artistes européens émergents à surveiller de très, 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 sinon bien évidemment le Gala de la francophonie le 19 juillet à la Place des Arts au Théâtre de Maisonneuve. Je pense que la liste des invités, elle est exceptionnelle pour ce gala-là qui va faire l'objet d'une... Qui sera capté pour la télé européenne. On a le temps de la renommée, bien évidemment, lundi, le 21, une première pour nous. Donc, et on souhaite que ça revienne année après année. Mais sinon, il y a toute la série du OFF aussi, le OFF Festival, qu'il ne faut pas oublier, où là, on est plus dans la découverte, les talents émergents, mais encore là, des belles surprises. Et ce sont des spectacles qui sont très, très, très abordables. J'invite les gens à aller voir David et ses drôles et ses amis chantent drôles, où on va retrouver Pierre-Yves Roy-Desmarais, notamment sur ce spectacle-là. Alors, un spectacle tout en humour et en musique.
Et puis, j'ai mentionné le financement, puis j'ai oublié de mentionner que Vous avez fait preuve de beaucoup d'initiatives et de pour trouver des façons innovatrices de se financer moitié-moitié. Ça se fait beaucoup hein, dans des peut-être des groupes communautaires, mais là vous le mettez à grande échelle. Là.
Exactement, mais tu sais, on le voit beaucoup aussi du côté sportif, hein, le Canadien, pour ne pas les nommer le fond. Ben, on s'est dit, ben, si ça existe du côté sportif, pourquoi qu'on ne le ferait pas de notre côté? Alors, ça va être une belle loterie, effectivement, pour les gens. On avait déjà fait auparavant à Québec, notamment pour la Fondation Antoine, qui est une fondation que l'on soutient. Là, on a décidé de faire à Montréal pour le festival. Alors, on va voir comment les gens vont répondre. On les invite à participer parce que, je veux dire, au nombre de visiteurs qu'on a par jour pendant la dizaine de jours qu'on va être là, ça peut être impressionnant, selon moi, le montant qu'on risque d'atteindre dans ce moitié-moitié.
Puis, il y a des beaux prix, la moitié de la cagnotte ou un voyage une semaine pour deux aux Bermudes.
Oui.
C'est des beaux prix, là.
Absolument,
puis l'accent au Just for Laughs des Bermudes, pourquoi pas?
Oui, tout à fait.
Bon,
dommage que nous, les employés, on n'a pas le droit de participer. Mais bon.
Ben oui, ça, c'est toujours le problème, hein, ces choses-là. Je pense que si Canalem faisait un beau concours comme ça, je serais très malheureux. J'aime bien participer à ces trucs-là. Puis j'aime beaucoup c'est quoi? Riez, participer, riez, gagner.
Ah, moi, ça... Oui, c'est ça, exact.
Riez, gagner, recommencer. Question un peu plate, là, mais on vit un peu avec des changements climatiques. On l'a vu, comment est-ce que ça a été difficile la semaine dernière. Est-ce que vous avez des plans de contingence? S'il y avait une menace?
Oui.
On a vu ce qui s'est passé au Festival d'été de Québec, entre autres, là.
Exact. Oui, ben on engage toujours un météorologue avec nous et on suit l'évolution de la température de très, très près. Alors, les équipes sont habituées, je veux dire que ce soit Montréal ou à Québec. Généralement, on est toujours en veille météo, donc on est déjà en train de penser à un plan B. Je sais que demain, là, la météo peut-être va être incertaine. On ne sait pas trop, c'est encore le temps de changer, mais on est déjà en train de prévoir des plans B. Donc, c'est sûr et certain qu'avec les outils technologiques aussi qu'on a aujourd'hui, on peut communiquer rapidement avec les gens advenant un changement de lieu et ou d'horaire. Mais sinon, les équipes sur place, bien évidemment, les plans d'évacuation, on ne se le souhaite pas. Mais si jamais ça arrive, ben, on est prêt pour ça.
Bon, j'allais faire une petite blague. Je vais la faire quand même. Je pense qu'elle n'est pas déplacée. Je pense que la météo n'a pas beaucoup le sens de l'humour ces jours-ci.
Non, effectivement.
Donc, pour avoir plus d'informations, José Charland, ces gens, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout dire dans une entrevue, puis on en parle, puis les gens n'ont pas le temps de tout noter. Il faut aller sur le site Juste pour rire, c'est ça?
En fait, on invite les gens à aller visiter le hahaha.com, sélectionner le Festival Juste pour rire Montréal, effectivement, et toute la programmation à la fois du Festival Juste pour rire et du OFF Festival Juste pour rire s'y retrouve.
Bon, mais moi, j'espère avoir du temps dans toutes mes occupations. Je suis déjà crédité, mais pour aller voir des choses, parce que c'est à chaque année, je trouve ça hallucinant comment est-ce que ça fait du bien de rire un peu.
Ça va nous faire plaisir de vous accueillir.
Merci beaucoup, José Charland, puis bon festival.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Da 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 dum dum da da dum dum da da dum dum da da dum dum da 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 dum dum da da dum dum da da dum dum da da dum dum. Tu vas rire. Da 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 dum dum da da dum dum da da dum dum da da dum dum. Hier à la mairie, au temps de tout promettre, je ne t'ai pas menti, mais j'ai omis peut-être un détail et demi. Tu vas rire. De mon âge, j'ai lourd et long passé. Les femmes et les voyages m'ont déjà épousé et jamais divorcé. Tu vas rire ou pas? Mais rassure-toi, tout va bien, ma chérie. Si ça comptait vraiment, t'emballe pas, tout va bien, ma
la chérie, si c'était important. Tu n'en saurais rien. Madrid ou Ottawa, un enfant qui grandit se demandera qui et me retrouvera. Tu vas rire, mais je suis comme ça, je suis comme le ciel a voulu. Pour vivre en harmonie au berceau, j'ai reçu le don de double vie. Tu vas rire. Hein, ou pas. Rassure-toi, tout va bien, ma chérie. Si ça comptait vraiment, t'en mal pas, tout va bien, ma chérie. Si c'était important, voyons, t'en mal pas. Si ça comptait vraiment, tu n'en saurais rien. Hier à la mairie, au temps de tout promettre, je ne t'ai pas menti, peut-être.
Albin de la Simone, tu vas rire.
Ouais, je sais pas si on va rire autant dans les prochaines semaines, mais en tout cas, la fin des tarifs états-uniens, c'est très improbable, dit le premier ministre Mark Carney. Alors, rien n'indique désormais à Mark Carney qu'il est possible de s'entendre avec les États-Unis de Donald Trump pour établir un libre-échange complet entre les deux pays. Il n'y a pas beaucoup de preuves qu'à ce moment-ci, que des accords ou des ententes ou des négociations avec les États-Unis pour n'importe quel pays permettent d'avoir un accord sans tarif. A laissé tomber M. Carney devant les journalistes. Alors, il a rencontré hier son cabinet pour la première fois depuis que le président Donald Trump a de nouveau menacé d'imposer des droits de douane sur les importations en provenance du Canada. Ce nouveau chapitre comporte une menace de droits de 35 % sur les marchandises canadiennes à compter du 1er août. Puis finalement, bien, il y a eu, on est revenu un peu sur cette annonce en disant que tous les biens qui étaient couverts par l'ACEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique sur le commerce, donc seraient exemptés de ces droits de douane. C'est une grande majorité de ce qui se transige entre les deux pays. Alors, on rappelle que le 16 juin, en marge du sommet du G7, M. Carney et M. Trump avaient pourtant convenu de travailler à la conclusion d'un nouvel accord commercial et de sécurité dans les 30 jours. La date a été remise au 21 juillet, puis maintenant au 1er août. Et puis, bien, la Maison-Blanche a de nouveau donc indiqué que des droits de 35 % s'appliqueraient à toutes les marchandises, sauf celles conformes à l'accord commercial Canada-États-Unis-Mexique. Dans une lettre datée du 10 juillet, le président Trump se plaint spécifiquement du manque d'accès au marché canadien par les producteurs de lait états-uniens, une composante du système de gestion de l'offre laitière du Canada. Il menace aussi de nouveau son voisin du Nord de surtaxes plus élevées en cas d'imposition de contre-mesures par Ottawa. Officiellement, Washington justifie l'imposition des droits de douane pour des motifs de sécurité nationale, notamment pour endiguer l'entrée de fentanyl sur son territoire. Mais on sait que c'est faux. Il n'y a pas tant de fentanyl, presque pas, qui vient du Canada. Alors voilà, ça c'est ce nouveau chapitre dans ce débat. Puis je continue avec les nouvelles Trump. Eh bien, de moins en moins de Canadiens ont une opinion favorable des États-Unis. Alors, après des mois de droits de douane et de moquerie de la part du président états-unien Donald Trump, bien, un nouveau sondage suggère que le pourcentage de Canadiens ayant une opinion favorable des États-Unis a diminué et est désormais comparable à celui des Canadiens ayant une opinion positive de la Chine. L'enquête du Pew Research Center indique qu'un tiers des Canadiens, 34 % ont désormais une opinion favorable des États-Unis. C'est une baisse de 20 points par rapport à, de 20 points de pourcentage par rapport à l'année dernière. Le même pourcentage de Canadiens avait une opinion favorable de la Chine, une augmentation de 13 points. Les dernières années, beaucoup de gens ont largement préféré les États-Unis à la Chine, a révélé Laura Silver, directrice adjointe de la recherche des attitudes mondiales au centre de recherche qui est établi à Washington. Maintenant, elle ajoute, s'il n'y a plus de différence entre les deux. L'enquête de Pew menée depuis auprès de 25 pays a révélé une hausse de l'opinion positive à l'égard de la Chine dans plus de la moitié des pays. On a également constaté une hausse du nombre de personnes ayant une opinion favorable du président chinois Xi Jinping. Oui, hein, c'est une première véritable hausse que nous observons et que nous qualifierons d'augmentation généralisée, a commenté Mme Silver. Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche avec un programme visant à reformater le commerce mondial et à bouleverser la géopolitique en ciblant aussi bien les amis que les ennemis. Les critiques des tactiques du président états-unien ont affirmé que l'instabilité persistante inciterait les pays à resserrer leurs liens avec la Chine. Le Canada a été une cible précoce, M. Trump ayant qualifié à plusieurs reprises l'ancien premier ministre Justin Trudeau de gouverneur du Canada et insistant sur le fait que le Canada devrait devenir un État états-unien. En mars, le président a imposé au Canada et au Mexique des droits de douane liés au trafic de fentanyl afin de réduire ses droits de douane pour des marchandises conformes à l'accord. En fait, avant de réduire ses droits de douane pour les marchandises conformes à l'accord Canada-États-Unis-Mexique quelques jours plus tard. Puis par la suite, il y a eu bien des guerres commerciales, bien des annonces. Je pense que je vais vous passer outre. Et je vais vous revenir pour vous dire que le groupe Pew, c'est un groupe de réflexion non partisan qui a interrogé 28 333 adultes dans 24 pays, États-Unis non inclus, du 8 janvier au 26 avril par téléphone, en ligne, en personne. Le centre a également sondé 3605 États-Unis du 24 au 30 mars par téléphone, en ligne, en personne. Le sondage révèle donc que 26 % des Canadiens interrogés ont déclaré avoir confiance dans le président chinois, tandis que 22 % ont la même confiance envers Donald Trump. L'évolution des opinions a été particulièrement marquée au Mexique, où 45 % des personnes interrogées ont déclaré qu'il était plus important pour leur pays d'entretenir des liens économiques solides avec la Chine qu'avec les États-Unis, contre 37 % en 2019 et 15 % en 2015.
La chanson Partout de Roxane Bruno.
Eh bien, juste, je vous disais tout à l'heure que les Canadiens ont fait beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de résidents de pays dans le monde ont de moins en moins confiance et aiment de moins en moins les États-Unis. Et il y a un point qu'un autre sondage ce matin là, révélait que les Canadiens commencent à en avoir assez puis s'attendent à ce que le gouvernement fédéral réplique sévèrement envers les États-Unis. Alors, ça n'augure pas très bien, mais bon. Puis en même temps, l'économie semble pas trop en souffrir présentement. On verra qu'est-ce qui va se passer quand tous ces droits de douane commenceront à affecter le portefeuille des résidents des États-Unis. Peut-être que ça changera les choses. Je continue, puis c'est un peu dans la même lignée, mais vous allez voir pourquoi. Alors, 9 Premières Nations contesteront en cours la loi fédérale sur les grands projets. Ça sort du Devoir ce matin. 9 Premières Nations de l'Ontario demandent à un tribunal de déclarer inconstitutionnel 2 lois fédérales et provinciales visant à accélérer des projets d'infrastructure et solliciter une injonction qui empêcherait les gouvernements d'utiliser certains de leurs aspects les plus litigieux. Dans leur contestation judiciaire déposée devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, les communautés autochtones affirment que la loi fédérale, connue sous le nom de projet de loi C-5, et la loi ontarienne, connue sous le nom de projet de loi 5, représentent toutes deux un danger clair et présent pour les droits des Premières Nations à l'autodétermination quant à leur mode de vie sur leur territoire. Bien que les lois laissent ouverte la possibilité ou prévoient une consultation des Premières Nations dès la première étape, leur participation à cette décision est à elle seule un leurre, détournant l'attention de toutes les autres façons dont les lois réduisent nécessairement la capacité des Premières Nations à s'engager sur les circonstances les plus larges des régimes, écrivent-elles dans leur contestation judiciaire. Bon, on se rappelle que le projet de loi C-5 permet au cabinet fédéral d'accorder rapidement des approbations pour des grands projets industriels tels des mines, des ports ou des pipelines, en contournant les lois existantes, tandis que le projet de loi d'Ontario permet au gouvernement de suspendre les lois provinciales et municipales pour la création de zones économiques spéciales. Tout ça parce qu'on veut développer des alternatives au commerce avec les États-Unis. On voit pourquoi je disais que c'était relié. Les Premières Nations demandent à la Cour une injonction interdisant au gouvernement fédéral de nommer des projets d'intérêt national et en Ontario de mettre de l'avant des zones économiques spéciales. Les gouvernements fédéral et ontarien ont tous deux déclaré que leurs lois constituent des outils pour contrer les effets de droits de douane imposés par le président Donald Trump, permettant au gouvernement canadien, notamment celui des ressources naturelles, de progresser plus rapidement. Mais il ne s'agit pas d'une lutte contre le développement et l'absence de développement, affirment les Premières Nations. Elles préconisent plutôt de bien faire les choses en veillant à ce que les informations nécessaires soient recueillies afin de procéder et que les droits et les protections des personnes soient respectées. Et on arrive à la fin de cette émission déjà. Alors, le temps de dire un gros merci à l'équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, à Hélène Denis qui a travaillé un petit peu à la recherche là, avant de partir pour me donner un coup de pouce pour reprendre la barre de cette émission. Je m'appelle Denis Martin Chabot. C'est un plaisir d'être là. De retour demain, à la même heure, même poste, tout ça à l'émission au quotidien.